Voilà, nous allons lire la suite du texte dans le livre du prophète Amos, là où nous nous étions arrêtés il y a bientôt un mois en réalité. C'était vers la fin du premier chapitre. On va lire à partir du verset 13. Rappelez-vous que Amos est un prophète dont personne n'avait entendu parler à l'époque où il reçoit sa vocation. Il est envoyé par Dieu pour prophétiser contre le royaume d'Israël. À cette époque-là, il y a deux royaumes. Israël a été divisé en deux, le peuple a été divisé en deux, et il y a le royaume du nord, appelé royaume d'Israël, et puis le royaume du sud, appelé royaume de Juda. Amos est envoyé pour prophétiser contre le royaume du nord, le royaume d'Israël. Mais ce qui nous a surpris, c'est qu'au début de sa prophétie, il ne va pas du tout parler d'Israël, il va parler des nations qui sont autour d'Israël. Vous voyez, les nations voisines. Et il a commencé à prononcer de la part de Dieu des sentences contre ces nations voisines d'Israël. C'est un peu comme si moi je me mettais à prononcer des sentences de la part de Dieu contre la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne. Vous voyez, les nations avoisinantes. Et on avait vu la dernière fois les quatre premières sentences, et là on va prendre la suite à partir du verset 13, donc il va s'agir encore de nations, de peuples voisins d'Israël. D'accord? Voilà, alors à partir du verset 13, Amos, premier chapitre, à partir du verset 13. Et nous lirons jusque dans le chapitre 2, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. À cause de trois crimes des Ammonites, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont éventré les femmes enceintes de Galaad afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu contre la muraille de Rabba, et il en dévorera les donjons. Au milieu des cris de guerre, au jour du combat, au milieu de l'ouragan, au jour de la tempête, et leur roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. À cause de trois crimes de Moab, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé, calciné les os du roi d'Édom. J'enverrai le feu contre Moab. Il dévorera les donjons de Kériot. Et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et du son du cor. Je retrancherai le juge de son sein et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de trois crimes de Juda, même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont rejeté la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses préceptes, parce qu'ils se sont laissés égarés par les mêmes mensonges auxquels leur père s'était rallié, j'enverrai le feu contre Juda et il dévorera les donjons de Jérusalem. Prions. Nous confessons, Seigneur, que ta parole est la vérité. Veuille maintenant nous sanctifier par ta vérité. Veuille ouvrir nos cœurs. Veuille nous rendre attentifs à ta voix, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
D'après un article paru dans le Figaro en avril 2008, c'est récent, plus de 50% des Français ne possèdent pas de Bible chez eux. Plus de 50% des Français ne possèdent pas de Bible chez eux. Seulement un Français sur cinq a lu au moins un passage biblique dans l'année écoulée. C'est sans surprise que cette enquête, qui a été effectuée par la Fédération biblique catholique internationale, c'est sans surprise que cette enquête qualifie la France de pays où l'on trouve, je cite, le plus grand niveau de sécularisation. C'est une des conclusions. Comment pourrait-il en être autrement dans un pays où tout le monde sait bien que la Bible s'est remplie de mythes, que son message, de toute façon, n'a plus aucune pertinence aujourd'hui? La Bible, pensez-vous, la Bible s'est totalement dépassée. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si je vous pose la question, c'est parce que le texte que nous venons de lire, et qui a été écrit il y a environ 27 siècles, a pour but de nous faire comprendre que la réponse à cette question est absolument cruciale. Elle était absolument cruciale il y a 27 siècles, et elle est encore cruciale aujourd'hui pour nous, pour chacun de nous personnellement, mais aussi pour notre entourage. Elle est cruciale pour notre Église aujourd'hui, elle est cruciale même plus largement pour la société dans laquelle nous vivons. Alors, est-ce que vous prenez la Bible au sérieux? Est-ce que nous prenons la Bible au sérieux? Que ce soit le dimanche au culte ou que ce soit dans notre vie quotidienne. Parce que ce texte veut nous faire mesurer les enjeux de la réponse que nous réservons au message de la Bible. Ce texte veut nous faire mesurer les enjeux importants, cruciaux, de la réponse que nous réservons au message de la Bible. Et le prophète Amos ne va pas y aller par quatre chemins. Il veut faire comprendre à son auditoire une idée toute simple. Et c'est la suivante. Tenez-vous bien. C'est que le fait de négliger la parole de Dieu ne constitue rien de moins qu'un crime contre l'humanité. Le fait de négliger la parole de Dieu ne constitue rien de moins qu'un crime contre l'humanité. Mais regardons comment le prophète s'y prend pour nous faire comprendre cela. La première chose que fait Amos, vous l'avez remarqué, c'est de poursuivre la liste des sentences prononcées contre les nations voisines d'Israël. Alors, vous vous rappelez peut-être, je sais, ça remonte à plusieurs semaines, mais Dieu avait d'abord parlé des quatre nations qui se trouvaient aux quatre extrémités, aux quatre angles du territoire. Et maintenant, il va se rapprocher géographiquement de Jérusalem et il va condamner sévèrement, on l'a lu, deux nations cousines, deux peuples cousins, les Ammonites et les Moabites, ou le peuple de Moab. Ces deux peuples, si vous avez quelques souvenirs du récit de la Genèse, ces deux peuples sont issus d'une relation incestueuse entre Lot, le neveu d'Abraham, et ses filles, ses deux filles. C'est dire que l'histoire même de ces nations est déjà, dès le départ, liée à une perversion assez extrême, un inceste. Mais Amos va noircir encore plus le tableau. Il va dénoncer des actes maintenant qui sont totalement cruels et sauvages. Des actes touchant à la dignité même de l'être humain et qui ont été perpétrés par le peuple d'Ammon et le peuple de Moab. Qu'est-ce qu'on a lu ? On a lu que par avidité, le désir d'agrandir son territoire, les Ammonites sont allés jusqu'à éventrer des femmes enceintes. Dans leur fureur, quant à eux, les Moabites sont allés jusqu'à brûler la dépouille d'un roi qui était mort. Dieu veut faire comprendre que le péché des Ammonites et des Moabites, leur péché au sens général, a fini par les déshumaniser. Ils n'ont plus d'égard pour la vie humaine, ni avant la naissance, ni après la mort. La leçon que Dieu veut faire retenir à son peuple, dans un premier temps, c'est la suivante, c'est que le péché mené à son comble aboutit à la négation de la dignité humaine. On pourrait dire ça plus simplement en disant le péché déshumanise. Le péché déshumanise. Essayons d'illustrer ce point. J'ai chez moi un couteau à huître. Vous voyez ce que c'est qu'un couteau à huître ? Vous savez, cette espèce de couteau avec une lame courte, relativement épaisse et pointue. Et un jour, j'ai découvert que ce couteau à huître ouvrait efficacement les pots de peinture. Vous savez, les pots de peinture, il faut toujours y aller avec le tournevis ou la lame ou je ne sais pas quoi. Figurez-vous que les couteaux à huître, ils marchent très bien pour ouvrir les pots de peinture. Alors, j'ai commencé à l'utiliser, ce beau couteau à huître, pour ça, et puis j'ai commencé à le faire de plus en plus souvent. Et vous savez ce qui a fini par se passer ? C'est que ce couteau à huître n'a plus jamais ouvert d'huître. Aujourd'hui, ce couteau se trouve dans mon garage, entaché de peinture, la lame abîmée, posée sur une étagère poussiéreuse entre le sachet de plâtre et le white spirit, vous voyez ? Le péché fait la même chose à l'être humain. Il porte atteinte à notre raison d'être, c'est-à-dire à notre dignité. Le péché détourne l'homme de son humanité, de ce qu'il est censé être. Et lorsque le péché est mené à son comble, le péché entraîne l'homme, si j'ose dire, au sous-sol, dans la poussière, dans l'obscurité. Alors, dans un premier temps, Amos est donc en train de pointer du doigt cette réalité-là. C'est que l'homme est déchu de son état d'origine, et que ce nouvel état n'est pas un état stationnaire. Le péché entraîne l'homme dans une direction, celle du mépris de sa propre dignité. Et le comble du mépris de la dignité humaine, il est parfaitement bien illustré chez les Ammonites et chez les Moabites dans les péchés qui leur, les comportements qui leur sont reprochés. Dans ce texte, ils ont perdu le sens du respect de la vie. Ils n'ont égard ni pour le faible qui n'est pas encore né, ni pour le puissant qui est déjà mort. Vous voyez ? Mais est-ce que vous voyez autour de vous aujourd'hui les symptômes de ce même problème ? En France, depuis 1975 et la loi Veil, il y a eu environ 6 millions d'avortements. Plusieurs pays européens autorisent aujourd'hui l'euthanasie et le suicide assisté, et le nombre de pays qui l'autorisent s'agrandit petit à petit. Qu'est-ce que cela nous indique concernant l'évolution de la société et la valeur qu'elle porte pour la vie humaine? La première affirmation du prophète, c'est donc que le péché mène au mépris de la dignité humaine. Le péché, comme je l'ai dit, entraîne progressivement l'homme au sous-sol. Et la suite du texte va nous montrer que cela est assez grave. Alors, qu'est-ce qui nous est dit, là, par la bouche ou la plume du prophète Amos? Après avoir dénoncé le comportement inhumain des Ammonites et des Moabites, Amos va prononcer de la part de Dieu des jugements maintenant contre ces deux peuples. Et ces jugements vont être les mêmes. Par une guerre violente et soudaine, Dieu va provoquer l'éviction des conducteurs de ces nations. Vous voyez, au verset 15, il va s'agir du roi et de ses chefs pour Ammon et pour Moab. Verset 3, il s'agit du deuxième chapitre, il s'agit du juge et de ses chefs. Par une guerre soudaine et violente, Dieu va provoquer l'éviction des conducteurs de ces nations. C'est un châtiment particulier parce que ce sont les régimes de ces deux nations qui sont visés. Dieu est en train d'annoncer qu'il va détruire la structure en place parmi ces peuples à cause de leur comportement décadent. Le prophète est en train de rappeler à son auditoire ici un autre élément qui est propre à la position de juge souverain de Dieu dont on avait parlé la dernière fois, c'est que la dislocation des nations est un jugement de la part de Dieu. Pour le dire autrement et plus simplement, Dieu renverse les régimes. Dieu renverse les régimes. C'est incroyable de penser que la décadence morale d'une société peut entraîner comme un jugement de la part de Dieu le renversement ou la chute d'un régime en place. On en a pourtant un exemple flagrant dans l'histoire. C'est celui de la chute de l'Empire romain d'Occident au 5e siècle. Au tout début du 5e siècle, il y a un historien, romain lui-même, du nom de Végès, qui a écrit son analyse de la situation. Et d'après lui, le déclin rapide de l'Empire romain est dû à ce qu'il a appelé la barbarisation de sa société, c'est-à-dire sa déchéance morale. Qui pouvait imaginer un siècle plus tôt, un siècle avant ce cher Végès, que cette superpuissance romaine, fière de sa technologie, fière de sa structure civile, de sa religion, fière de ses forces armées, fière de son occupation territoriale, qui pouvait imaginer que cette superpuissance pourrait un jour s'effondrer en l'espace de quelques décennies, comme l'histoire nous le raconte aujourd'hui? C'est Dieu qui renverse les régimes. Je ne dis pas ça pour vous inquiéter, mais à votre avis, dans quelle direction se dirige l'Occident aujourd'hui? Je vous suggère de regarder notre évolution sur le plan moral, ce qui se traduit sur le plan législatif d'ailleurs. Pensez-vous que notre société va se consolider ou se fragiliser? Depuis quelques années, on parle de cette fameuse fracture sociale en France. Le débat récent qui a été lancé sur la fameuse question de l'identité nationale nous montre aussi que quelqu'un, quelque part, estime que la France est en manque d'unité et qu'il y a une sorte de démembrement de notre société qui est déjà en cours depuis un certain temps. Une sorte de dislocation. Amos nous lance en tout cas ici un appel fort à la lucidité. Dieu est capable de renverser les régimes comme un jugement contre les peuples. Il est capable de le faire et il l'a fait. Il rappelle à son auditoire dans ce texte que la dislocation des nations est un jugement de la part de Dieu. Tout cela, bien entendu, est destiné à susciter l'attention des destinataires de la prophétie, c'est-à-dire du peuple de Dieu. Tout cela est destiné à leur inspirer de la crainte. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que la suite du texte va tomber comme un coup de massue. Comme je le rappelais tout à l'heure, depuis le début de la prophétie, Amos a commencé à énumérer les terribles péchés des nations voisines, n'est-ce pas? Des actes de barbarie, des manifestations ignobles de cruauté et de sauvagerie. Et à travers notamment les exemples des Ammonites et des Moabites que nous venons de lire, il y a eu là la démonstration violente d'un véritable mépris de la dignité humaine, suivi ensuite de jugements terribles de la part de Dieu. Et tout d'un coup, sur le même plan que toutes ces horreurs, Dieu va placer le rejet de sa loi par son peuple. Le rejet de la Torah, littéralement, par son peuple. La raison est simple, c'est qu'Amos veut faire comprendre au peuple qu'en négligeant la parole de Dieu, ils se sont rendus coupables d'un crime équivalent au comportement inhumain des nations voisines. Pour Dieu, le fait de rejeter l'alliance est un acte inhumain. Alors dites-moi, est-ce que vous aimeriez voir votre nom figuré à côté de ceux de Klaus Barbie, Pol Pot, Maurice Papon, Slobodan Milosevic? Imaginez une grande plaque quelque part intitulée « Ces personnes se sont rendues coupables de crimes contre l'humanité ». Puis une longue liste de noms en dessous, et puis parmi ces noms, Judson, Gérard, Cécilia. C'est exactement ce que Dieu est en train de faire dans ce texte, avec son peuple. Les Ammonites ont éventré des femmes enceintes. Les Moabites ont brûlé la dépouille d'un roi. Le peuple de Juda a rejeté la loi de l'Éternel. Pourquoi est-ce si grave? Pourquoi Dieu le met-il sur le même plan? Eh bien, imaginez un de ces films de super-héros qui, vous savez, ils sortent régulièrement, Batman, Spider-Man, Iron Man et tous les man que vous voulez imaginer. Pas la man du désert, hein, c'est autre chose, mais les autres man. L'intrigue est toujours plus ou moins la même, n'est-ce pas, dans ces films? Il y a quelque part, dans une région du monde, une situation désespérée. Et une seule personne est en mesure d'y mettre un terme. Et cette personne, bien entendu, c'est le super-héros en question. Lui seul est capable de mettre un terme à cette situation de crise et de rétablir la justice et la paix. On sait tous comment ça va se terminer, ces films-là. C'est toujours les gentils qui gagnent, hein, et les méchants qui perdent. Bon, bah, pourtant, on aime bien les regarder à chaque fois. Mais imaginez maintenant que vers le milieu du film, le super-héros décide finalement de se rallier avec les méchants. C'est grave, docteur? Un peu, mon neveu. Si le super-héros se rallie aux méchants, il ne reste plus personne pour sauver la société. Si le peuple de Dieu, qui est dépositaire de la parole de Dieu, se rallie plutôt à des mensonges, c'est un crime contre l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne pour être témoin du plan rédempteur de Dieu dans un monde déchu. C'est exactement pour cela que Jésus a dit, si le sel... Non, pardon, je remonte même un tout petit peu avant. Il dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Vous voyez l'insistance de Jésus, c'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Pour le peuple de Dieu, rejeter la parole de Dieu constitue un véritable crime contre l'humanité, parce que c'est dans l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham et sa descendance que se trouve le salut des hommes. Hein, Dieu s'est adressé à Abraham, je vous renvoie encore à votre bonne mémoire du livre de la Genèse, mais si vous avez des problèmes de mémoire concernant l'Ancien Testament, je vous encourage à venir le jeudi soir, parce que nous récapitulons tout ça le jeudi soir. Mais Dieu s'est adressé à Abraham dans l'histoire, et il ne s'est pas adressé à un autre. Et il a dit à Abraham, « Suis-moi, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. » Et ensuite, Dieu ajoute, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voilà l'alliance dont le peuple de Juda est dépositaire. Ils sont héritiers de ces paroles-là. Elles ont été confiées au peuple de Juda. Alors vous êtes peut-être d'accord ce matin pour dire que le péché mène au mépris de la dignité humaine. Vous êtes peut-être d'accord pour dire que le déclin de la société n'est pas sans rapport avec cette évolution et d'accord avec le fait que la dislocation des nations est peut-être un jugement de la part de Dieu. Vous êtes peut-être d'accord avec tout ça, mais l'affirmation suivante qu'Amos nous force à faire, c'est que le fait de rejeter l'alliance est un acte inhumain. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et la question qui s'ensuit, elle est donc la suivante. Est-ce que vous prenez la Bible au sérieux? Est-ce que vous prenez la Bible au sérieux? Est-ce que vous êtes attentif à son message? Parce que c'est dans l'alliance que se trouve le salut des hommes, et nulle part ailleurs. Alors regardons pourquoi c'est le cas. Retournons au texte pour cela. Vous avez peut-être remarqué que le jugement des Ammonites et des Moabites était résumé dans le sort qui était réservé à leurs dirigeants, à leurs chefs, à leurs conducteurs, n'est-ce pas ? Pour les Ammonites, le roi et ses chefs. Pour les Moabites, c'était le juge, leur juge et ses chefs. Dieu est en train de montrer combien les représentants du peuple sont responsables à ses yeux et combien la responsabilité des représentants déborde sur le peuple. C'est pour cela que ce sont les chefs, dans le texte, qui sont châtiés, qui sont déportés. La prophétie ne mentionne pas explicitement le peuple lui-même. Mais ce sont les chefs qui représentent le peuple. C'est pour ça que le feu du jugement est envoyé contre les villes d'Ammon et de Moab, qui sont les capitales. Rabba, pour les Ammonites, et Kériot, pour les Moabites. Amos est donc en train de rappeler à son auditoire que pour Dieu, le châtiment d'un peuple passe par le représentant du peuple. Cette notion de la représentativité, elle est importante dans la Bible. Elle est importante et pourtant, nous, on a du mal à la comprendre aujourd'hui parce qu'on a une mentalité individualiste. On a du mal à comprendre le rapport entre un groupe de personnes et celui qui représente ce groupe de personnes. Et pourtant, cette réalité est toujours d'actualité aujourd'hui. Imaginez qu'un jour, Nicolas Sarkozy dîne avec Barack Obama. Okay. Mais le repas tourne mal, la discussion s'envenime, et avant le dessert, Nicolas Sarkozy a déclaré la guerre aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que vous pourrez voyager encore librement en Amérique, que vous soyez d'accord ou non avec la déclaration de guerre de Nicolas Sarkozy ? Bien sûr que non. Les décisions de nos responsables débordent sur nous, n'est-ce pas ? De même, si un enfant mineur commet un délit, ce sont les parents qui sont tenus pour responsables de cet enfant. Ben, c'est pas juste. Mais si. Et inversement, si un père de famille dilapide tout son argent sur le jeu et la boisson, la famille en subit les conséquences. Ben, c'est pas juste, ben, c'est comme ça pourtant. Les décisions de nos responsables débordent sur nous. Ce rapport de représentativité et de responsabilité est une notion importante dans la Bible. En fait, Dieu l'a inscrit même dans la création de l'être humain, dans la création de l'humanité. C'est pour cette raison que ce n'est pas injuste. Si au départ, il n'y a qu'un seul homme qui a péché, Adam, mais que quand même tout le reste de l'humanité est considéré coupable. Eh bien, remarquez dans le texte que comme pour les Ammonites, comme pour les Moabites, c'est aussi la capitale de Juda qui est visée par le jugement de Dieu. Il va envoyer son feu contre Juda et il dévorera les donjons de Jérusalem. La portée de cette sentence est terrible, absolument terrible, parce que le royaume de Juda, c'est le royaume de la lignée de David, du roi David, le grand roi dans l'histoire d'Israël. Au cœur de Juda se trouve Jérusalem, la capitale historique du peuple d'Israël. Au cœur de Jérusalem se trouve le trône de David et le temple, symbole de cette relation privilégiée entre le peuple et Dieu. Et au cœur du temple, il y a quoi ? Il y a la loi de l'Éternel, cette fameuse Torah conservée au milieu du temple et qui constitue en fait quoi ? Cette Torah, elle constitue les termes de l'alliance de grâce conclue entre Dieu et son peuple en vertu de laquelle toutes les familles de la terre devaient être bénies. Alors cette sentence prononcée contre Juda et contre Jérusalem est absolument terrible. Dieu envoie le feu de son jugement contre tout cela, comme il l'a fait contre les nations païennes. Heureusement que l'histoire continue. Heureusement que nous n'avons pas que les deux premiers chapitres du livre d'Amos. Heureusement que nous avons toute la Bible et que la Bible explique que le royaume de Juda a été détruit, certes, et Jérusalem aussi, et même le temple a été détruit, mais pas au détriment des promesses que Dieu a livrées dans l'histoire. Dieu a préservé un reste parmi le peuple, parmi son peuple. Il a préservé un reste jusqu'au jour où le digne représentant du peuple est arrivé en la personne de Jésus. De la lignée d'Abraham, de la lignée de Juda, de la lignée de David, ce parfait représentant du peuple a rempli pour le peuple tous les termes de l'alliance. Et il a aussi pour le peuple subi le feu du jugement de Dieu, en mourant sur la croix, en étant, si j'ose dire, en étant déporté comme les chefs d'Amon et de Moab, en étant déporté au sous-sol, si j'ose dire, en étant descendu aux enfers, comme nous le disons dans le symbole des apôtres. Mais il est ressuscité comme gage de sa victoire sur le mal et de sa suprématie sur tout l'univers. Il est vivant et il invite maintenant tous les hommes à entrer au bénéfice de ce qu'il a accompli pour eux. Vous voyez pourquoi on peut dire que dans l'Alliance se trouve le salut des hommes et nulle part ailleurs. Alors la question qui est soulevée par ces paroles d'Amos, la question que le reste de la Bible rend encore plus tranchante, c'est la suivante. Qui est votre représentant auprès de Dieu? Qui vous représente, vous, auprès de Dieu? En qui ou en quoi vous confiez-vous? Peut-être que vous vous confiez en des représentants humains, ou peut-être matériels, ou peut-être idéologiques, ou peut-être que vous vous confiez en vous-même, tout simplement. Amos dit du peuple au verset 4 qu'ils se sont laissés égarer par les mêmes mensonges auxquels leur père s'était raillé. Et vous? À quel régime voulez-vous vous rallier? Est-ce que vous voulez vous rallier à un régime mensonger, un régime en déclin, que Dieu va de toute façon renverser, quel qu'il soit ce régime, ou bien allez-vous vous rallier au régime suprême et bienveillant de Jésus-Christ? Est-ce que vous allez vous rallier au royaume inébranlable du Fils bien-aimé qui vous invite tout simplement à placer votre confiance en lui, qui vous invite à lui céder votre vie? Le châtiment d'un peuple passe par le représentant du peuple, et c'est pour cette raison que le salut du peuple passe aussi par le représentant du peuple. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit aux Romains, « Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Alors à qui voulez-vous vous rallier? Qui vous représente auprès de Dieu? Je sais que tout ça a pu paraître un peu compliqué, mais tâchons de retenir l'essentiel pour terminer. Nous parlions en introduction de la grande ignorance qu'il y avait, qui règne dans notre pays, autour de la Bible et de son message. Qu'il y a plus de 50% des Français n'ont pas de Bible chez eux. À côté de ça, il y a Amos ici. Il y a 27 siècles qui déjà affirment que le fait de négliger la parole de Dieu ne constitue rien de moins qu'un crime contre l'humanité. Pour nous faire comprendre cela, il nous a rappelé que l'homme, à cause du péché, tendait à mépriser sa propre dignité. L'homme se déshumanise, le péché déshumanise l'homme, et que cela entraînait comme un jugement de la part de Dieu le démembrement de la société, le renversement des régimes, la dislocation des nations. Mais Dieu a mis en œuvre un plan pour restaurer l'humanité. Il a confié les termes de ce contrat à son peuple comme un trésor dans un vase d'argile. Et Amos déclare, et c'est logique, que le fait de mépriser cette alliance est un acte inhumain, tout simplement. Parce que c'est en vertu de cette alliance que Jésus-Christ est venu comme unique médiateur et sauveur pour tous les hommes qui se confient en lui. Il n'y a pas de salut ailleurs qu'en lui. Ne cherchez pas, il n'y en a pas ailleurs qu'en lui. Alors est-ce que vous prenez la Bible au sérieux? Quelle réponse réservez-vous à son message? J'espère qu'elle sera celle du psalmiste qui a écrit « Je n'oublierai jamais tes statuts, car par eux tu me fais vivre. » Amen. Prions. Merci notre Dieu, notre Père, d'être intervenu dans l'histoire, malgré notre péché, malgré notre désobéissance. Tu es intervenu, tu as livré des promesses et tu as tout accompli par ta seule puissance, par ton seul amour, par ta seule grâce. Tu as fait tout cela en envoyant Jésus-Christ. Merci parce que le salut que tu nous offres, il est gratuit pour nous. Il nous suffit de nous confier en lui. Je prie, Seigneur, pour moi-même et pour chaque personne présente ici, que nous ne prenions pas à la légère les affirmations de la Bible, que nous ne négligions pas le message de ta parole, Seigneur. Que nous puissions d'abord le recevoir pour nous-mêmes, mais aussi en être des témoins fidèles autour de nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.